Nous avons désespérément besoin de vivre une vie remplie de l'Esprit de Dieu. Quand on considère la vie de Jésus, son enseignement et aussi celui des apôtres, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais présenté la vie chrétienne autrement que remplie du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une option, ce n'est pas un plus dans ma vie. C'est la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand nous n'en sommes pas remplis, Dieu nous aime, nous lui appartenons, nous sommes à lui, nous sommes ses enfants, mais nous vivons malheureusement, nous vivons en dessous, nous vivons en deçà de l'excellence de vie que le Seigneur a toujours voulu, il a toujours pensé cela pour nous. Et ce grand impératif m'interpelle pour toute cette année 2018-2019, soyez remplis de l'Esprit. On pense souvent, frères et sœurs, c'est pas faux, c'est juste incomplet. Quand on pense Saint-Esprit, on pense souvent aux manifestations extérieures de l'Esprit. On pense à ces manifestations de puissance. On pense aux guérisons, on pense aux délivrances. Et tout cela, on fait bien, mais on parle souvent de miracles extérieurs. La personne du Saint-Esprit est une personne riche, elle est variée, elle est profonde. Le Saint-Esprit est une personne extrêmement complète et nous ne pouvons pas prendre du Saint-Esprit que ce qui nous arrange. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le disséquer. Je dois vivre avec lui, je dois diminuer, le laisser grandir, le laisser faire son œuvre, pas seulement dans les temps, dans les circonstances, dans l'extérieur, dans mon corps, dans ma vie, dans ce qui m'arrange, mais je dois accepter et considérer la volonté de Dieu et l'ensemble des facettes du ministère du Saint-Esprit. Et l'un des aspects que nous étudions ensemble depuis janvier, c'est cette métamorphose, cette transformation. Le Saint-Esprit est là en nous, il nous a fait naître de nouveau et cette vie qui a été plantée miraculeusement dans nos cœurs, la vie nouvelle, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Cette vie qui est en nous, elle est appelée à se développer. De la même façon qu'un nouveau-né, quand il sort du ventre de sa maman, il y a une naissance, il n'est pas appelé à rester un nourrisson toute sa vie. Il faut qu'il grandissent, c'est normal, il faut que sa vie se développe, il faut qu'il arrive à l'âge adulte, il faut qu'il y ait une stature, il faut qu'il y ait une maturité en toute chose. Et le but, l'un des objectifs du Saint-Esprit en nous ayant fait naître de nouveau, c'est de développer cette vie de Dieu en nous, de nous ramener à la ressemblance de Jésus dans son cœur, dans son caractère, dans ses attributs. La vie chrétienne, j'aime beaucoup le dire, la vie chrétienne, ce ne sont pas des améliorations. La vie chrétienne, ce n'est pas du plus. La vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'amélioration. La vie chrétienne, c'est une vie de transformation. De progrès en progrès, comme dit Paul, de gloire en gloire, d'un niveau de ressemblance à un autre niveau de ressemblance, des paliers successifs qui m'emmènent toujours un peu plus à la ressemblance de Jésus. C'est mon appel, c'est votre appel, c'est la volonté de Dieu. On a chanté bien avant que le monde soit créé, formé, tu m'aimais. Oui, certes, mais Paul dit aussi par révélation du Saint-Esprit dans Romains 8, nous sommes prédestinés. À être semblable à l'image de son Fils. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'amélioration, c'est une vie de transformation. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'apparence. La vie chrétienne, c'est une vie de ressemblance. Pas l'apparence du chrétien, la ressemblance au caractère de Christ. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle le caractère, la vie et le fruit va se manifester. Et ce fruit, on l'a vu ensemble dans ces deux derniers dimanches, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et après avoir considéré quelques caractéristiques de l'amour, on va regarder un ou deux autres axes majeurs ce matin. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. On fait deux lectures complémentaires, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains. Si vous voulez bien ouvrir avec moi Romains chapitre 14, Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Un petit peu plus loin, chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ici, Paul est en train de dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas du terrestre. Ce n'est pas de l'humain. Ce n'est pas du matériel. Ce n'est pas du terre à terre. Ce n'est pas le rat des pâquerettes. Alors oui, le royaume de Dieu, j'aime souvent le dire, avant de nous emmener au ciel, avant de faire venir le ciel dans notre cœur, oui, Jésus nous a rejoints dans nos besoins physiques, terrestres, humains, matériels. Et dans l'Évangile, on voit Jésus qui est là dans une proximité, qui est tellement concerné par les besoins matériels, physiques, de toutes sortes, des gens qui sont là autour de lui. Oui, le royaume de Dieu a une implication dans le terrestre, dans le quotidien. Oui, c'est vrai, Dieu nous montre à quel point, quand il intervient, il est réel. Vous demandez à Dieu, votre situation professionnelle est bloquée, je dis un exemple comme ça, voilà, votre situation professionnelle est bloquée, vous croyez dans le Dieu de toute grâce, vous croyez qu'il est votre Père, qu'il va pourvoir, et paf, il y a un truc qui se débloque. Oui, Dieu a montré, en intervenant dans votre situation, il a montré à quel point il est réel, il a montré à quel point il est capable, à quel point il est prévenant, à quel point il vous aime, etc., etc. Mais ça, c'est juste un aspect. Et le risque, ce serait de restreindre le royaume de Dieu à du terrestre, de limiter à ça, à l'exaucement de mes besoins, à la satisfaction de mes besoins terrestres, matériels, humains, physiques, immédiats. Je ne peux pas prendre du Saint-Esprit ce qui m'arrange. C'est dans mon intérêt aussi de ne pas prendre du royaume de Dieu que ce qui m'arrange. Le royaume de Dieu, même s'il a une implication dans le terrestre, le royaume de Dieu, ce n'est pas du terrestre. Jésus n'est pas un leader politique, religieux, guérisseur, gris-gris, machin, je ne sais pas quoi. Jésus est réellement Dieu, il apporte le ciel dans notre cœur, il nous apporte sa vie, et le meilleur que vous puissiez vivre, expérimenter et recevoir ce matin, ce n'est pas une bénédiction qui vient de Jésus, quand bien même il veut vous la donner. Le meilleur pour votre vie, ce n'est pas ce que Dieu vous donne. Le meilleur pour votre vie, c'est Jésus-Christ. Il y en a quatre qui sont d'accord. Le meilleur pour votre vie, ce n'est pas ce que Dieu vous donne. Le meilleur pour votre vie, c'est Jésus-Christ. C'est sa vie, c'est son royaume, c'est une qualité de vie. Le royaume de Dieu est spirituel et il doit s'installer et se développer dans mon être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. C'est sa vie, c'est sa qualité de vie, la vie que Dieu vit. Non pas la vie que Dieu possède, c'est la vie que Dieu est. Il est la vie, il est cette dimension de vie, il est cette zoé de Dieu, cette vie, cette qualité de vie, et il veut nous la partager, il veut la faire grandir et la développer en nous. Et dans ces axes majeurs de transformation dans nos cœurs et dans nos vies, il y a l'amour, et puis il y a aussi, selon ce que disent les textes, la paix. Comment va votre paix ce matin? Comment va votre paix? La paix, c'est un élément indispensable, et vous le savez, de notre qualité de vie. Il n'y aura pas de joie sans paix. Je ne peux pas être heureux si je ne suis pas profondément en paix. C'est pour ça qu'elle est très souvent contenue dans les salutations des épîtres, pour ne pas dire quasiment tout le temps. C'est pour ça qu'il y a une multitude de références dans la parole de Dieu. Mais comme pour l'amour, la paix est un mot aussi qu'il va falloir définir ou redéfinir. pour parler des mêmes choses que Paul. Comme pour l'amour, la paix n'est pas un sentiment humain. La paix n'est pas liée aux circonstances. La paix fait partie, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'exclusivité de Dieu, c'est une paix surnaturelle, c'est une paix extraordinaire. Dans les épîtres, Dieu est appelé le Dieu de paix. Et nous, humains, on s'imagine souvent que la paix, c'est l'absence de problème. C'est l'absence de tension ou de problème avec les autres. Quand les autres commencent un peu trop à vous prendre la tête, vous leur dites « Fichez-moi ». Refaites-le-moi pour l'enregistrement. « Fichez-moi ».
La paix.
Merci. La paix. Faux ! Parce que la paix ne doit pas dépendre des circonstances, ça c'est une conception humaine de la paix. On dit « fichez-moi la paix », c'est une façon de dire « si je n'ai plus de contact avec lui, si j'ai plus de contact avec elle, si j'ai plus tel problème familial, si j'ai plus tel problème professionnel, si j'ai plus tel problème de santé, évidemment je serai en paix ». Non, c'est faux. Il y a des gens, ils ont de l'argent sur leur compte en banque, et bien ce qu'ils font c'est qu'ils en mettent encore plus, alors qu'ils ne manquent de rien, mais ils ont peur d'être en manque demain. La peur, c'est un principe. La paix, comme la peur, ce sont des armes spirituelles qui sont à l'intérieur de nos cœurs. Il y a des gens qui sont en parfaite santé, mais qui ont peur de savoir comment ils vont finir. J'ai connu des pasteurs, ils étaient en pleine santé, ils avaient peur de mourir. Pendant une période de ma jeunesse, Anne le sait, j'avais une peur viscérale, j'avais peur que Anne meure. On avait, je ne sais pas, 23, 24, 25 ans, ma femme était jeune, on était en pleine santé. J'avais peur. Vous pouvez avoir de l'argent sur votre compte en banque, mais avoir peur de manquer demain. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, une merveilleuse épouse, une bonne situation, la santé, mais avoir peur que demain ça ne dure pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand je suis arrivé ici, ah ça c'était trop gentil, c'était vraiment, c'est pour vous détendre, c'était mignon. Oh là là, je suis content que tu sois là, mais je suis déjà triste en pensant au jour où tu vas partir. En attendant que je parte, tu pourrais, s'il te plaît, juste te réjouir. C'est bizarre la peur, c'est vraiment une puissance de l'ennemi. Et la peur comme la paix, c'est faux, elle ne dépend pas des circonstances. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème. La paix de Dieu, c'est le calme. La tranquillité, la quiétude, non pas l'inquiétude, mais la quiétude, malgré les circonstances, une paix surnaturelle, une paix extraordinaire. C'est une autre dimension, elle vient d'un royaume spirituel, elle est d'en haut. Et cette paix, avant toute chose, elle ne peut venir que par le Saint-Esprit, évidemment, puisque Jésus lui-même, vous le savez, Éphésiens 2,14, pour ceux qui notent, Éphésiens 2,14 dit « Il est notre paix, Jésus, il est ma paix, c'est lui notre paix. » Dans le livre d'Ésaïe, Jésus prophétiquement est appelé le prince de la paix. La paix, c'est d'abord une paix intérieure, la paix, c'est une personne, ça ne dépend pas des circonstances. Jésus dit en Jean 14, « Je vous laisse ma paix, parce que c'est extrêmement précieux. » Généralement, on laisse aux gens qu'on aime, on leur laisse ce qu'il y a de plus précieux. Si vous aimez vos enfants, vous allez tout faire pour qu'ils héritent de ce que vous avez de plus précieux. Même du petit service à thé avec les petits trucs. Ils vont casser, ils vont le mettre à la poubelle, mais ce n'est pas grave. Pour vous, c'est précieux, alors vous leur donnez. Parce qu'il y a la petite truc de la tata qui est restée, c'est un héritage familial et je le transmets à mes enfants. Ils s'en fichent, mais ce n'est pas grave, vous leur donnez, c'est précieux pour vous. On transmet ce qu'on a de précieux à ceux qu'on aime. Jésus a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas une paix qui va s'en aller aussi vite qu'elle est arrivée. Je vous donne ma la sienne. Donc il y a une dimension dans la paix de Dieu, il y a une propriété, il y a une exclusivité. Et cette paix, mais combien c'est tragique de ne pas la vivre. Il a tout fait pour que je l'aie. Et moi, je vais vivre sans. Il existe une multitude de mots, M-O-T-S, et une multitude de mots, M-A-U-X, pour les antonymes et pour les conséquences de l'absence de paix. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme antonyme du mot paix. L'absence de paix, voici les mots M-O-T-S, pour désigner l'absence de paix, inquiétude, crainte, peur. Le mot peur a plusieurs racines. Timéo, qui a donné timide, littéralement qui paralyse, paralysé par la peur. Le mot peur a aussi, vient aussi d'une racine phobos, qui a donné phobie. Peur de, peur de, peur de, peur de. Et il y a toujours un adjectif juste avant phobie. Et là, je n'ai pas fait la liste parce que... On va beaucoup plus loin. L'angoisse, anxiété, tourment, frayeur, effroi, terreur, panique, appréhension, prostration, abattement, etc. Ah ben, vaut mieux être en paix, hein. Ça va plus vite, hein. Ça va faire des économies à la sécu, cette histoire, hein. Ouh. S'il y a des mots M-O-T-S, il y a des mots M-A-U-X. Et si vous vous êtes reconnu dans certains mots, vous allez peut-être vous reconnaître aussi dans certains mots. Absence de paix. Il faut comprendre que nous sommes esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Je l'avais déjà expliqué, je ne redis pas tout ça. Mais il faut savoir que tout ça, c'est lié, c'est interdépendant. Il y a des connexions entre l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit, le corps, l'âme, l'âme, l'esprit. Tout ça, c'est lié, tout ça, c'est interdépendant. Et si mon âme, si mon esprit, si je n'ai pas la paix, s'il y a angoisse, inquiétude, tourment, phobie, machin, etc., 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 il va nécessairement y avoir des répercussions physiques. Parce que mon corps n'est qu'un réceptacle. Il abrite mon esprit et mon âme. Et quand à l'intérieur, la pression... La cocotte minute, elle bout trop quand à l'intérieur la pression est beaucoup trop forte. Il s'en est rendu malade. Quels sont les mots que je peux déclencher, les conséquences physiques? Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est vous allez sur n'importe quel site médical, on va vous le confirmer, je n'invente rien. Réaction cutanée. Pouf, il y a des gens, ils font de l'eczéma par manque de paix. Tension musculaire, des maux de dos, des maux de tête, des céphalées, des migraines. Attendez, c'est super fort. Des troubles des fonctions cardiaques. Il y a des gens, ils sont tellement pas tranquilles, leur cœur, il déraille. C'est puissant la peur, c'est puissant la paix. Troubles des fonctions cardiaques, troubles des fonctions respiratoires, troubles digestifs. Crise de foi qui fabrique trop de bile. On dit, ah, il est bileux. Te fais pas de bile. Vous connaissez l'expression, te fais pas de bile. Mais ça vient de là, parce que par l'angoisse, par l'inquiétude, oui, on peut fabriquer de la bile. Dysfonctionnement de la rate. Tout ça, c'est médical, hein. Je cite, j'invente rien. Dysfonctionnement de la rate. Risque d'ulcère à l'estomac. Changement de métabolisme. Tellement inquiet que j'arrive à modifier mon métabolisme. Système immunitaire affaibli. Trouble du sommeil. Insomnie. Anorexie. Boulimie. Je suis pas bien, je mange. C'est sérieux tout ça. Faute de paix, mon corps va réagir. Moi, je comprends. Que Paul me dit, soyez remplis de l'esprit. Et quand il a dit ça, je vous le répète, il n'a pas pensé à la sécu, elle n'existait pas. C'est dans mon intérêt. Paul me dit, sois rempli de l'esprit. Si tu es rempli de l'esprit, tu vas être rempli d'amour, tu vas être rempli de paix, tu vas être rempli de joie. Il y a une telle qualité de vie qui va se manifester en toi. Je crois, frères et sœurs, que la paix, ce n'est pas une priorité, c'est réellement la priorité pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup d'enfants des dieux. Et c'est une facette du ministère de l'Esprit en nous de nous amener à cette dimension de paix, à cette glorieuse réalité, cette qualité de vie, ce fruit inimitable que le Saint-Esprit développe en moi. Vous connaissez ce passage de Philippiens où Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Déjà là, honnêtement, on ne va pas le dire, hein. Déjà là, on se demande comment on fait. « Ne vous inquiétez de rien », mais par l'Esprit, c'est possible. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec actions de grâce, etc. etc. » Et là, ce qui m'a toujours surpris, c'est que Paul ne dit pas « Et Dieu va répondre tout de suite ». Paul ne dit pas ça. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix. Parce que le véritable enjeu, ce n'est pas ma circonstance, quelle qu'elle soit, aussi grave soit-elle. Le véritable enjeu, c'est l'intérieur, c'est la paix. Et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle surpasse, il désigne ici une paix qui est littéralement excellente, une paix supérieure, une paix tellement élevée que les circonstances, les vagues, les circonstances qui se déchaînent dans l'océan de mes problèmes, les vagues, les circonstances ne peuvent pas atteindre cette paix. Cette paix, elle surpasse, elle est excellente, elle n'est pas terrestre. Cette paix qui surpasse toute intelligence, oui, parce que la paix de Dieu, c'est un miracle. Au même titre que votre nouvelle naissance, au même titre que votre baptême dans l'esprit, au même titre que le parler en langue, au même titre que la guérison divine, que ce que vous voulez, c'est un miracle. Elle surpasse et cette paix, elle gardera. C'est un terme militaire qui évoque la protection. C'est le terme qu'on emploie pour garder une forteresse, pour garder une ville. Ces soldats qui gardent, ils sont là pour protéger d'une invasion ennemie. La paix de Dieu, comme un soldat, comme un garde militaire, elle va protéger, elle va garder mon cœur, elle va prévenir des invasions ennemies, hostiles, étrangères. La paix de Dieu va protéger mon cœur et mes pensées. Frères et sœurs, je le rappelle, je ne refais pas tout ce qu'on a fait sur les pensées. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site internet. Il y a une série de messages qui s'appelle « Victoire sur nos pensées ». Mais je crois que c'est réellement important juste là de souligner que les plus grandes batailles, elles ne se livrent pas dans nos circonstances. Les plus grands combats, ils ne sont pas à l'extérieur. Je sais que la maladie, c'est une affaire très sérieuse. Mais le plus grand combat, ce n'est pas ta maladie. Le plus grand combat que l'ennemi voudrait remporter dans ta vie, c'est là que ça se passe, dans ton cœur. Les batailles, elles sont spirituelles. Elles se livrent d'abord à l'intérieur, dans mon cœur, dans mes pensées. C'est là que se livrent les batailles, c'est là que se remportent les victoires. Et c'est là, avant les circonstances, avant l'extérieur, c'est là à l'intérieur que je suis vaincu ou vainqueur. Et tu ne seras jamais vainqueur dehors si tu n'es pas vainqueur d'abord dedans. Tu ne triompheras pas à l'extérieur dans les circonstances si tu n'as pas déjà remporté une victoire à l'intérieur. En termes de paix, c'est là que ça se passe. Et c'est toujours là que le diable va chercher à prendre l'avantage. C'est là qu'il veut régner, dominer. C'est là qu'il voudrait t'écraser. C'est là qu'il voudrait prendre le contrôle, semer la panique, invasion hostile, pensée contraire, pensée étrangère, pensée mensongère. La première chose, c'est humain, je ne juge personne. Quand on est malade, la première chose qu'on pense, c'est « je vais mourir ». Qu'est-ce que tu en sais ? Tu as été consulté le plan de Dieu avant de dire ça ? Tu lui as demandé ce qu'il avait prévu pour ta vie ? Non, la première pensée qui vient, c'est une pensée sombre, parce que c'est là que le diable va chercher à prendre l'avantage. Et c'est là que les pensées qui sont à l'intérieur de mon cœur, comme les habitants de cette ville, sont gardées dans la paix de Dieu, sont protégés, pour pas que mes pensées, elles partent dans tous les sens, dans la panique. Parce que tu sais très bien que quand tu es sous le contrôle de la peur, tu n'écoutes plus Dieu et tu fais n'importe quoi. Alors je comprends que Paul insiste, et que tout de suite après l'amour vienne la paix, la joie, parce que c'est tellement un élément déterminant de ma qualité de vie. Romains 15, 13, on l'a lu, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Un autre aspect de la paix, frères et sœurs, c'est que la paix est liée à la foi. Mon manque de paix, mon absence de paix, peut révéler une lacune dans ma communion avec le Saint-Esprit, puisque c'est son fruit et c'est lui qui va le développer en moi. Donc mon absence de paix peut révéler une lacune dans ma communion avec le Saint-Esprit. Mais mon manque de paix peut révéler aussi, et ce n'est pas un jugement, c'est, je suis pareil que vous, je suis chrétien avant d'être pasteur, ça peut aussi révéler un manque de confiance, un manque de connaissance de Dieu, d'une connaissance intime et pratique. C'est normal, on passe tous par ces moments-là, il faut y passer pour grandir dans ces dimensions-là. Lorsque les disciples, vous vous souvenez de ce tout petit récit, de ces simples versets de l'Évangile, lorsque les disciples étaient dans la barque, Jésus, lui, il dormait. Ce n'est pas qu'il était trop fatigué, hein. Parce que quand vous êtes dans une barque de l'époque et vous êtes dans une tempête, je vous garantis, avec les déferlantes que vous vous prenez dans la tête, personne ne peut dormir. Donc ici, Jésus a une leçon à leur enseigner. Il a quelque chose à leur véhiculer. Et les disciples, après avoir essayé de gérer la situation et des copélos, et puis de se retrouver confrontés, limités à leur manque de paix, leur incapacité dans tous les sens du terme, quand ils réveillent Jésus, souvenez-vous, ils leur disent « Maître, Seigneur, tu ne te soucies pas de ce qu'on périt ? Ça ne te fait rien qu'on périsse ? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ?» Oh pardon, il n'y a jamais de chrétien qui pense ça. « Qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? » Ou plutôt, « Qu'est-ce que tu ne fais pas dans mon cas ?» Tu ne te soucies pas de nous, de ce que nous périssons? Si, bien sûr que je m'en soucie. Mais je me soucie d'abord de l'intérieur. Je me soucie d'abord de ton cœur. Vous savez, frères et sœurs, il y aura toujours un miracle plus grand que la tempête calmée. Parce que la tempête extérieure, bien qu'elle puisse être impressionnante, est sérieuse, douloureuse, et qu'on a beaucoup de compassion pour les gens qui sont dans toutes sortes de tempêtes. Il faut réaliser que le plus grand miracle, le miracle bien plus important, ce n'est pas la tempête qui est calmée à l'extérieur, c'est la tempête qui est calmée à l'intérieur. Chaque fois que vous passez par une tempête, quelle que soit sa forme, la tempête extérieure, la circonstance, cherchera toujours, par le biais de l'ennemi, cherchera toujours à développer une tempête intérieure. C'est systématique. Et il faut absolument que la tempête intérieure soit apaisée avant la tempête extérieure. Je me fais bien comprendre. Quelle que soit sa forme, il faut d'abord que la tempête soit calmée à l'intérieur. Quand Dieu tarde à agir dans tes circonstances, quand Jésus, écoutez-moi bien, quand Jésus semble, j'ai bien dit semble, parce qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur son peuple. Quand il semble dormir dans ta tempête, c'est parce qu'il veut d'abord agir à l'intérieur. Dieu agit, Dieu est un Dieu d'action, c'est un principe. Mais il veut d'abord agir à l'intérieur. Et quand Dieu n'agit pas à l'extérieur, au lieu de t'agiter, de t'inquiéter et même de dire « Qu'est-ce que tu ne fais pas, Seigneur ?» au lieu de t'inquiéter, considérez que là, il y a une autre tempête à calmer. Quand Dieu n'agit pas dans les circonstances extérieures, c'est parce qu'il veut agir à l'intérieur. Et c'est souvent là qu'on loupe le message, le fond, l'enseignement de Jésus, ce qu'il veut nous véhiculer, nous faire comprendre, nous amener plus loin. Si Dieu répondait, pardon j'insiste, hein, je sais qu'il y a des besoins qui sont inquiétants, qui sont humainement parlant, urgents, criants, impératifs, oui Dieu le sait, mais si à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, Dieu me répond tout de suite. Quand est-ce que je grandis dans la paix? Quand est-ce que ma vie spirituelle, ma vie intérieure, elle va prendre de la hauteur? Quand est-ce que je vais devenir mature? Si Dieu répond tout de suite, il a répondu tout de suite, amen. Mais à la fois suivante, oui parce qu'il y aura une fois suivante, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la vie. Ok, je parle à des gens qui sont matures dans la vie. Une fois qu'il a répondu immédiatement, j'apprends rien. Et à la fois suivante, je suis de nouveau en mode panique. J'ai rien appris, j'ai pas grandi, je suis toujours aussi immature, je suis toujours aussi vaincu par mes pensées, je suis toujours en train de faire n'importe quoi, c'est la panique comme on dit à bâbord et à tribord, j'ai rien appris. Mais si dans ma tempête, j'acquiers d'abord cette dimension du fruit de l'esprit, cette paix développée en moi, à la fois suivante, parce que quand ce ne sera pas avec ton corps, ce sera avec tes enfants. Quand ce ne sera pas avec tes enfants, ce sera avec ton travail. Quand ce ne sera pas avec ton travail, ce sera avec tes finances. Quand ce ne sera pas avec tes finances, ce sera avec ton pasteur ou l'église ou qu'un frère, je ne sais pas, quelqu'un, quelque chose. À la fois suivante, je suis en paix. Et à la fois suivante, la paix, le fruit de l'esprit, me suit partout. Et en toute situation, je suis capable, à la première mauvaise nouvelle, de ne pas m'effondrer, de rester en paix, de rester maître, la maîtrise de soi, d'être maître de moi. Parfois, j'explose, je bouge, je m'énerve, je suis en colère. Manque de maîtrise, parce que manque de paix. Parfois, quand j'entends une mauvaise nouvelle, je suis totalement effondré intérieurement. Totalement effondré intérieurement. Pourquoi ? Manque de paix. La paix va me garder. Je crois, frères et sœurs, que quand Paul me dit « Sois rempli de l'Esprit », c'est vraiment dans mon intérêt qu'il me dit ça. Alors, être paisible comme ça, c'est pas possible. Être amour comme on l'a vu les fois passées, c'est pas possible. Je suis totalement dépassé par ces dimensions surnaturelles, célestes, des dimensions vertigineuses. C'est même pas la peine d'essayer. Le secret, il est dans la communion du sarment avec le cep. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Le secret, c'est la sève. Le secret, c'est, selon ce que Paul dit de Corinthiens 13:13, l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Parce que l'amour, la joie, la paix, etc., c'est son fruit à lui. C'est son exclusivité. Et c'est un fruit que je n'acquiers ni par méthode, ni par technique, ni par mes efforts, ni par bonne volonté, ni parce que j'ai essayé. C'est un fruit qui est miraculeusement développé en moi par le Saint-Esprit, parce que c'est son fruit à lui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous remplit par la puissance du Saint-Esprit de toute joie et de toute paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un manque, c'est normal, il ne faut pas se le reprocher, on passe tous par là. Si quelqu'un, dans ses circonstances, dans sa tempête, manque cruellement de paix, sans être défaitiste, ce n'est pas la peine d'essayer. La priorité, c'est d'aller reconnecter le sarment au cep et d'avoir vraiment cette vie, cette sève de l'esprit qui va m'alimenter et qui va faire sortir un fruit miraculeux. J'ai rien fait, je suis juste resté greffé à la communion du Saint-Esprit. Et puis d'un seul coup, épreuve suivante, pouf, j'arrive à aimer comme je n'avais jamais aimé. Épreuve suivante, pouf, c'est marrant, je suis en paix, ça ne m'atteint pas comme la fois précédente. Épreuve suivante, pouf, oh, je garde une dimension de joie plus grande que ce qui m'arrive. Épreuve suivante, pouf, oh, quelle maîtrise, c'est la communion du Saint-Esprit qui m'a rempli, qui m'a irrigué et qui a fait sortir ce fruit miraculeux. Amen.